Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, quatrième de notre quatrième saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Bernard de Vic.
Bonjour.
Maire de Cave, la commune de Cave, et président du PNR, le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, pour ne rien oublier. On va revenir sur ces deux sujets, Bernard de Vic, dans une troisième partie. Et auparavant, bien entendu, pour cette quatrième de la quatrième, si je puis dire, pas république, mais saison. Ton menu, Michel, alors nous allons évoquer... pour changer un petit peu un bouquin que tu as lu, qui a été présenté aux auteurs à la plage à Le Cat. Après quoi, nous revenons dans du traditionnel contre-regard, puisque rappelons quand même que le contre-regard, c'est la base de cette émission Radio Barque.
Et de mon blog.
Voilà, c'est ça. On reste dans cette filière, là,
exactement,
si je puis dire, ou dans ce filon. Dans ce filon. Et Zozo, alors, je te cite, Michel, c'est pas moi, c'est toi qui le dis. Zozo Occitan qui rejoue la guerre de 36 en Espagne. Bien entendu, ça tourne autour de la hypothétique déclaration de l'indépendance par M. Puigdemont et tutti quanti.
Exactement, oui.
Dans une deuxième partie, nous évoquerons ce que tu appelles les égoïsmes municipaux au Grand Narbonne, donc dans la dans la communauté d'agglomération, et nous finirons sur des panneaux qui te déplaisent dans la ville de Narbonne et dont tu penses qu'ils font de la publicité mensongère pour la ville de Narbonne.
Exact.
Tu nous expliqueras plus précisément tout cela. Alors d'abord, ce bouquin d'un auteur que tu vas nous présenter, que beaucoup d'auditeurs probablement ne connaissent pas.
Très rapidement, Jean-Claude, puisque je tenais à faire cette chronique pour une raison simple, c'est que l'auteur dont je vais parler a été reçu par Michel Py dans le cadre de sa manifestation estivale dont le nom est Auteur à la plage, et qui est remarquable. Chaque année, il reçoit des personnalités du monde, du monde de la littérature, en fait, ou de l'écrit de manière générale, tout à fait intéressant. C'est comme ainsi, il a reçu Marie Darrieussecq, Serge Joncourt, Alexis Génie, David, bref, quand même des pointures. Il se trouve que là.
Ça fait partie d'ailleurs d'une volonté de bien meubler l'arrière-saison Le cadre de Michel Py.
Et il se trouve que c'est son adjointe, qui s'appelle Nathalie Chapergoval, la femme de Patrick Chapergoval, le peintre bien connu, enfin, je l'espère en tout cas, des auditeurs de cette radio, qui s'occupe de cette manifestation. Et donc, Michel Py, par intermédiaire de Nathalie, m'a envoyé, comme il le fait chaque année d'ailleurs, le bouquin de Philippe Janana, qui d'entrée de jeu m'a un peu inquiété, par son épaisseur, 600 pages. J'ai pas l'habitude de lire des ouvrages aussi volumineux.
C'est guerre épais du coin, quoi.
Exactement. Cela dit, dès les premières lignes, j'ai été pris par ce bouquin qui raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Henri Girard, dont je dirai après quel était son nom d'auteur, qui a été accusé pendant l'occupation, d'ailleurs, d'un crime, trois personnes, dans un château appartenant à son père. Et donc, tout le livre, qui est un roman enquête de Philippe Janeda, comment Philippe Janeda, l'auteur, se rend dans le Périgord, en fait, dans ce château, pour tenter d'élucider ou de comprendre si vraiment ce monsieur Henri Girard a exécuté ce crime ou pas, étant entendu qu'il a été jugé à la libération et déclaré innocent.
Alors c'est un peu un polar d'une certaine façon.
C'est un roman enquête, ça ressemble effectivement à un polar.
Truc qu'on ressort longtemps après, comme
exactement.
Les cold case américains.
Il se trouve que c'est ça qui m'a surpris, en fait, mais le hasard fait bien les choses. Il se trouve que, arrivé à la page 103, je découvre quel est le nom d'auteur de cet Henri Girard qui est au centre de ce roman enquête. Et le nom d'auteur de cet Henri Girard est Georges Arnaud. Georges Arnaud, écrivain, qui a écrit notamment Le salaire de la peur, qui a été adapté par Clouzot, le fameux film avec Vanel, etc. Qui, entre parenthèses, film qui est démoli au passage par l'auteur en question, Philippe Janeda. Et il se trouve qu'arrive en la page 103, je dis, mais c'est pas vrai, Georges Arnaud, Pourquoi je, mon étonnement? Parce que je venais de terminer 15 jours avant un autre polar, rural, celui-là, écrit par un nommé G.J. Arnaud, donc l'homonyme de ce Georges Arnaud, qui a écrit un polar dont l'histoire se déroule dans un périmètre comprenant, borné pardon, par Narbonne, La Palme, Sigean, Le Catte. Tout se déroule dans une maison faite en bord de l'étang de La Palme. C'est écrit d'une plume, avec une sensibilité, une psychologie extraordinaire qui nous fait pénétrer ce territoire. Je le dis parce que Bernard De Vic est là, qu'il est en charge de PNR, par le biais de cette histoire d'une manière fantastique. Il y a des passages sur le centre-ville de Narbonne, sur les bords de La Palme, sur Sigean, tout à fait remarquables.
Voilà, mais rien donc, à voir avec le premier.
Qui n'a rien à voir avec le premier. Ça, c'est effectivement mon contre-regard sur cet ouvrage.
C'est un polar local.
Exactement. C'est certainement un des premiers romans polars qui sont à la mode aujourd'hui, jamais écrits, effectivement, en tout cas dans notre région.
Une petite parenthèse, ce qui me rappelle une chanson de Brassens. Il n'y a pas qu'à Paris que le crime fleurit. Nous, au village aussi, l'on a de beaux assassinats.
Et le titre de ce roman, en fait, qui a été édité au Fleuve Noir, c'est Les Jeudis de Julie, qui est d'ailleurs un très joli titre, dont a été tiré d'ailleurs un téléfilm qui a eu son grand succès, en fait, à l'époque des années 60. Donc voilà. Alors, pour terminer quand même sur Philippe Janeda, puisque c'est de lui dont je voulais parler, à travers aussi cet homonyme de Georges Arnaud, c'est un bouquin qui se lit, en fait, après la passe en 3,
malgré
à une vitesse folle.
Et
je ne dis pas ça pour, encore une fois, faire le pédant, mais il se trouve que quelquefois, j'ai du mal à faire une nuit complète. Et grâce à deux nuits blanches, pratiquement, j'ai fini ces 600 pages en me disant, mais quel livre merveilleux. Il est toujours dans la sélection Renaudot. À mon avis, il risque de l'avoir, ce prix-là.
À guetter.
Et en tout cas, s'il ne l'a pas, de toute manière, je recommande à nos auditeurs d'acheter La Serpe de Philippe Janeda aux éditions Julliard. C'est un remarquable roman.
Voilà. Et critique littéraire de Michel Santos, si je puis dire. Je l'ai lu en une nuit, donc on n'y échappe pas. Revenons à du plus traditionnel dans ce radiobarque, Michel, les zozos occitans. Occitans ou catalans, en fait?
Les deux, en fait.
Oui, les deux.
Les deux, en fait. Les Catalans du Nord, en fait, puisqu'ils s'appellent comme ça, nos militants.
Non, ils s'appellent Catalans. Ils se disent pas Occitans, les Catalans du Nord.
Jean-Claude. Nos Occitans d'Arbonnais, pour aller vite.
Oui, d'accord.
Et nos Catalans du Nord de Perpignan ou de Pézilla-la-Rivière, qui, j'étais tranquillement assis dans la cuisine. J'écoute la radio et puis
encore,
j'entends.
Ça me rappelle une autre chanson. J'étais tranquille, j'étais peinard.
J'entends une information qui m'a fait sauter au plafond, selon laquelle des militants catalans du Nord, de Pézilla, de Perpignan, etc.
De Pézilla-la-Rivière. Hein.
Qui, pour soutenir leurs frères et sœurs, c'est pas moi qui le dis, quoi. Hein, ce sont eux. Hein, de la Catalogne du Sud, en fait, donc de Barcelone. Était à la recherche de maisons et d'appartements dans le département des Pyrénées-Orientales pour y accueillir le gouvernement catalan qui, à leurs yeux, à leur dire, allait nécessairement passer la frontière pour se réfugier et demander la protection policière l'hébergement des frères et sœurs de la Catalogne du Nord.
Et ça apparemment, ils ne cherchent plus, ils ont trouvé même, il semblerait.
Oui. Et alors évidemment, ils n'ont pas cherché dans les HLM, dans les noms des maisons, ont-ils précisé correspondant au standing de ces messieurs. Qu'est-ce qui leur prend, en fait? On n'est pas quand même en 36, en fait. On n'est pas en pleine guerre civile, en fait. C'est pas Franco qui est au gouvernement. Orwell, à Barcelone.
S'il y a des frictions et des esprits échauffés, quand
bien entendu. Mais quand même, ça reste dans un cadre, démocratique normal, et serein. Et puis, quelques minutes après, quelques temps après, je lis sur la page Facebook de militants occitans bien connus de Narbonne.
Eux aussi cherchaient ?
Oui. Non, mais qui, lui, passe tous ses week-ends à Barcelone pour combattre avec ses frères et sœurs, Catalogne, contre le gouvernement de Rajoy, qui est tout simplement Grangeois, c'est Franco.
Oui, oui,
c'est Franco.
Ça rappelle des beaux slogans dans l'histoire. Non pasaran.
C'est ça. Et qui tranquillement nous dit qu'est-ce que j'aurais fait ce mi-temps occitan si pendant les années 40 est-ce que j'aurais été collabo en fait ou résistant? Oui. Évidemment, il aurait été résistant puisqu'il est en train de résister face à la dictature franquiste en Espagne aujourd'hui. Oui. Alors qu'effectivement,
c'est vrai que résister dans un fauteuil c'est plus facile que sur le terrain. Bon.
Non, mais tout ça pour dire quand même qu'il y a une espèce de folie en fait qui
intellectuelle
qui t'entraîne.
Il y a une boursouflure dans le langage et dans l'analyse probablement.
Oui, ça me fait penser en réalité, ce sont des gens qui ont la nostalgie d'une époque, en fait, qu'ils n'ont pas connue, qu'ils auraient bien aimé connaître, particulièrement dramatique, et où ils imaginent qu'ils auraient été forcément dans la figure du héros résistant à toutes les dictatures. Donc, en fait, ce sont des pseudo, en fait, des résistants, en fait, qui, par procuration, se font une petite santé, en fait, intellectuelle, en fait, et politique, à peu de frais, mais surtout en nous prenant pour des ânes. C'est ce que je ne supporte pas, et que je voulais dire ici, après l'avoir écrit dans mon blog.
Ah, voilà. Alors, qu'on se le dise, à Radio Bar, que comme dans le civil, Michel Santos n'apprécie pas d'être pris pour un âne. Après, qu'est-ce qu'il va advenir de cette mésaventure catalane? Ça, Dieu seul le sait. Rajoy le sait ou il le sait pas, le seigneur Rajoy.
À mon avis, ça risque de se terminer forcément très bien pour nos indépendantistes catalans du Sud.
Voilà. Bon, ya veremos, comme on dit en castillan et non pas en catalan. On marque une première pause.